démocratie à la japonaise. Monsieur Mohamed Chourak et Monsieur Dominique André Fatto, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est moi qui va commencer. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire des petits mots tout d'abord. Ce travail, si vous voulez, c'est le fruit de la coopération entre l'université de Hiroshima et l'université de Dijon. Monsieur André Fatto est venu en décembre dernier à Tours, où il a passé 3 semaines, à Hiroshima, pardon, où il a passé 3 semaines. Donc, à ce moment-là, le Japon il était en effervescence parce qu'il y avait les élections de la chambre, de la moitié de la chambre haute, ou bien des conseillers. À ce moment-là, on a pensé pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble, donc de commun. Et à propos de ces élections et du système japonais en général. Ces élections, si vous voulez, il y avait beaucoup, on avait parlé beaucoup de ces élections, même si c'était la moitié de la chambre haute, parce que, comme M. Jean il a expliqué, c'est que la chambre haute au Japon aussi, lorsqu'il s'agit de révision constitutionnelle, il a un grand rôle à jouer. Et le Premier ministre Abe, tout le monde pensait qu'il veut réviser la Constitution. C'est pourquoi il a essayé d'avoir la majorité dans la chambre basse. Il voulait avoir une majorité dans la chambre haute afin, on lui prêtait cette intention de changer la Constitution. Donc, c'est parti de 10 juillet, les Japonais votaient pour le renouvellement de la moitié de la chambre haute. Mais ces élections nous ont permis de faire le point sur l'évolution des forces politiques au Japon. Et l'une, comme vous savez, l'une des plus grandes démocraties asiatiques et au monde, et qui demeure assez, je crois même en France, assez largement méconnue. Mais avant de rentrer dans l'historique un peu, j'aimerais rappeler que la première constitution japonaise, et les Japonais la connaissent, remonte au 7e siècle avec la promulgation de ce qu'on appelle la constitution Shōtoku Taishi, le prince Shōtoku, en l'an 604. Cette constitution, qui comprend 17 articles, est largement inspirée du bouddhisme et du confucianisme. Bien sûr, là, vous trouvez dans beaucoup de commentaires que cette constitution, c'est pas comme la constitution actuelle, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à l'époque où le Japon, ou bien Shōtoku Taishi, il a lancé cette constitution, ailleurs, il n'y avait pas encore le Coran, mais il y avait la Bible. Donc, on se basait seulement pour ça, la Bible. Mais le Japon, il avait au moins, il a lancé cette constitution, ce qui est un ensemble de règles morales et de conduite des princes et des gouvernés, ou bien des peuples. Le prince, je dis un mot sur le prince Shōtoku, elle a joué un grand rôle dans l'implantation du bouddhisme au Japon. Il y a même des livres japonais qui parlent de saint Shōtoku. Au niveau contemporain, le système constitutionnel japonais, M. Jean il a expliqué bien ça, a été inspiré des Européens, des institutions européennes du 19e siècle. La constitution Meiji, elle est fortement inspirée des constitutions de l'époque. Et M. Sogabe aussi, il avait parlé de ça. Mais ce système, il a été, comme vous le savez très bien, il a été démocratisé après la Seconde Guerre, ou bien démocratisé sous la supervision américaine après la Seconde Guerre mondiale. C'est un système parlementaire bicaméral avec 2 chambres, basse et haute. La caractéristique de ce système, c'est qu'il a été marqué longtemps par une grande stabilité, avant quelques engagements au début des années 90, puis de 2009, marqué par une première et éphémère alternance entre le parti de l'opposition et le parti libéral-démocrate. Aujourd'hui, il semble qu'on est revenu à la situation d'avant 1990. Comme dans la plupart des démocraties occidentales, la démocratie japonaise aussi semble connaître des signes de fatigue. Donc, pour commencer, je vais faire une petite perspective historique avant de laisser la parole à mon collègue pour continuer. Depuis l'après-guerre, le multipartisme caractérise le paysage politique japonais. Celui-ci n'est pas toujours facile à saisir, notamment depuis l'étranger, en raison des partis aux dénominations changeantes. Monsieur le professeur Jean, il a parlé de ces difficultés d'accéder aux informations si on ne connaît pas le japonais, sur les informations de ce que, politique au Japon. Cela est lié aussi aux ambitions des différentes personnalités de droite ou bien à des divisions idéologiques à gauche. Le Parti socialiste a connu beaucoup, notamment, de divisions dans les années d'après-guerre. Bien sûr, sans parler du contexte de la guerre froide et ses conséquences, qui a favorisé le retour rapide sur la scène politique de personnalités compromises avec la dictature militaire. Après la guerre, beaucoup de personnalités, en raison de la guerre froide ou bien de la volonté américaine, beaucoup de personnalités qui étaient plus ou moins impliquées dans la guerre sont revenues au pouvoir. C'est d'ailleurs dans ce contexte, mais aussi la pression des milieux d'affaires, qui a précipité la fusion entre deux principaux partis de centre-droit et de droite pour engendrer le Parti libéral-démocrate qui va dominer en 1956 et qui va dominer le système politique jusqu'à aujourd'hui. On peut trouver une équivalence de cette formation qui a existé, je crois, avant la guerre. Il y a aussi, si vous voulez, c'est pas seulement la domination de ce parti en raison de ses alliances avec les milieux d'affaires, mais en même temps en raison de ces liens, ce qu'on appelle des liens féodaux dynastiques au Japon, ou bien des personnalités liées au Japon. Ce que, par exemple, incarne actuellement le Premier ministre Abe, qui a son grand-père, Kishi, qui était déjà Premier ministre. Son père, il est Abe, il était ministre des Affaires étrangères. Et je crois son oncle, je crois il était aussi Premier ministre. Et le grand-père de Abe, c'est lui qui a fait ou bien passé le traité de coopération mutuelle Japon et Amérique en 1960. Et maintenant, quelques commentaires parlent que Abe, qui est le petit-fils de Kishi, il veut changer la constitution. Ce système est un héritage du système aristocratique, mais aussi du modèle réussite familiale dans les affaires. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le LDP, tel qu'il s'est mis en place après la guerre, est d'abord un allié des Américains. Il va parallèlement tisser des liens très étroits avec les milieux d'affaires et lancer le Japon sur les rails de la reconstruction économique des États-Unis. Ce parti va donc dominer la vie politique plus de quatre décennies, de 1955 à 1973. C'est ce qu'on appelle, je crois, au Japon, le système 1955, où il y avait le LDP qui dominait les cinq politiques au Japon, et dans l'opposition, il y avait le Parti socialiste qui faisait toujours l'opposition. Le paysage politique se caractérise alors par un multipartisme à parti unique. On parlait, ou ce qu'on appelle, comme j'ai dit, le système de 1956. On pourrait rapprocher cette situation de la situation française des années 60 et 70 avec la domination des gaullistes, ou encore la rapprocher de la situation italienne avec l'hégémonie de la démocratie chrétienne jusqu'aux années 90. Mais s'il domine le système, il est arrivé à dominer le système politique, le LDP est toujours divisé. Il est toutefois divisé. Car Comme tout à l'heure, nos collègues nous a expliqué, on connaît le parti politique et le parti LDP au Japon. Il est structuré autour de factions, ce qu'on appelle Habatsu en japonais. Et certains chefs de ces factions étaient parfois plus forts que même le Premier ministre. Et tout à l'heure, M. Sogabe, lorsqu'il a dit que dans les négociations parlementaires, le Premier ministre devrait coordonner avec les patrons, il veut dire c'est ça, avec les chefs de faction. Donc avant que la loi arrive, donc il discute avec eux, donc normalement il enlève toute opposition à son projet de loi. C'est un héritage de réseaux divers. Le parti de régions diverses construit autour de personnalités et d'un clientisme ancien remontant à l'avant-guerre, sinon au système féodal. À cet égard, il faut noter que le système électoral en vigueur à l'époque contribuait à entretenir ce fonctionnalisme. En effet, il s'agit du scrutin majoritaire, je crois que M. Jean il a parlé de ça, majoritaire dont des circonscriptions où plusieurs sièges sont à pourvoir. Ce système électoral signifie que plusieurs candidats d'un même parti se retrouvent en compétition dans une même circonscription. Cela engendre la concurrence au sein d'un même parti et chaque candidat va rechercher le soutien ou se réclamant d'un parrain, d'un boss. En pratique, ce candidat va dépendre d'un leader de faction ou qui soutient sa candidature et la finance. En retour, le candidat, s'il est élu, envoie l'ascenseur en rejoignant la faction et en soutenant son leader pour le poste de Premier ministre. Car le Premier ministre, comme vous savez, le Premier ministre est élu par la Diète. Et les deux chambres, et la primauté, elle est toujours dans le système japonais à la chambre basse, comme M. Jean l'a expliqué. Ainsi, la réalité du pouvoir dans le parti va appartenir à des chefs de faction, comme on l'a dit, et pas tout à fait au Premier ministre, qui se trouve aussi au croisement des divers réseaux dans le monde des affaires, ce qui alimente aussi un peu ce qu'on appelle le phénomène de corruption. Mais je crois, mon collègue va parler, à partir des années 90, ce système, surtout avec le Premier ministre Koizumi, il va essayer de mettre fin à ce système de factions. Il a dit, lui, c'est lui qui a dit, je crois, une citation très connue, qu'il va détruire le Parti libéral-démocrate. Il a réussi un peu à détruire, si vous voulez, à ne plus dépendre des factions. Il s'est adressé direct au peuple japonais. Et d'ailleurs, il a été très populaire, je crois, mon collègue, il va en parler. Donc, comme j'ai dit, à partir des années 90, ce système, il va entrer en crise, il va être réformé. Et Koizumi, je crois, il est PGD, ou bien les gens de Hosokawa et les autres, ils vont être à l'origine de cette réforme, des réformes qui vont léguer un peu le rôle des factions dans le Parti libéral-démocrate et aussi prendre, faire perdre pour un certain moment le pouvoir du Parti libéral-démocrate. Le financement des partis et cette réforme, comme j'ai dit, en 1990, il y avait une réforme qui a été commencée par le LDP, mais a été continuée avec le parti de l'opposition. Et cette réforme mettait en cause le système électoral. Désormais, il devient mixte, majoritaire et proportionnel. Et le financement des partis et les dépenses vont être plus strictement limitées et encadrées. L'État commence à donner beaucoup d'argent généreusement aux partis pour qu'ils soient plus libres des factions. ce qui va mettre à l'écart momentanément le LDP, et on voit à ce moment-là la floraison de nombreux nouveaux partis qui vont après, je crois, prendre pour un certain moment la place du Parti libéral-démocrate. C'est ce qu'on appelle la grande crise du système de 1955. Et je vais m'arrêter ici. Je laisse la parole à mon collègue pour voir qu'est-ce qu'on est après avec Koizumi. Merci.